mais en campagne. Bruno Marchand qui disait aussi vouloir garder ça là, en bas de l'inflation. Et on parle beaucoup de la fameuse réforme du monde syndical au Québec. Il y aura un grand rassemblement avec le nom dans la rue pour le Québec, demain du côté de Montréal. On dit non à la voie du repli, des coupes de la confrontation et du déni de la démocratie. Les 9 principales organisations syndicales qui invitent tout le monde là à un grand rassemblement demain 29 novembre à Montréal.
Merci beaucoup. Il est le président de la centrale des syndicats du Québec. Son nom, c'est Éric Gingras. On a le plaisir de lui parler ce matin. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour à vous.
Est-ce que vous allez être de la fête demain dans cette manifestation monstre?
Je vais être du rassemblement. Pas certain que ce soit une fête. Mais oui, on sera présent, puis on espère des dizaines de milliers de collègues issus du monde syndical, mais aussi de la population en général, parce que on sait le gouvernement, une grande impopularité, et cette impopularité-là, vous savez, à la CSQ, on représente majoritairement des collègues du secteur public, l'éducation, de la santé, de la petite enfance. Ben, les services ne vont pas bien, puis à la place de s'occuper de ça, ben, le gouvernement, pour aller chercher quelques points, dans l'électorat, ben, casse du sucre sur le dos des syndicats.
Vous avez pris connaissance du projet de loi numéro 3 du ministre du Travail, Jean Boulet. Qu'est-ce qui est bon dans ce projet de loi 3 du ministre du Travail?
Ben, on a fait nos devoirs, puis on a fait notre présentation en commission parlementaire cette semaine. Essentiellement, on est d'accord avec la transparence, hein? Que les états financiers soient disponibles, qu'ils soient clairs, qu'ils soient vérifiés, par des firmes comptables, tout ça, bien d'accord. On a apporté certaines modulations parce que vous savez, lorsque vous avez une accréditation de 42 membres, une accréditation de 160 membres ou une accréditation de 10 000 membres, ben les opportunités ou le montant disponible pour faire ces audits-là qui coûtent des dizaines de milliers de dollars, ben c'est pas tout à fait la même chose. Donc on dit, ben écoutez, en fonction de la grosseur de l'accréditation, ça devrait être modulé, mais d'accord avec cette transparence-là. D'accord aussi avec les aspects démocratiques. Vous savez qu'on prend des votes, hein? Il y en a une partie de ces votes-là pour la grève, pour les ententes de principe adoptées ou rejetées. C'est déjà sous vote secret. Là, ce qu'on dit, c'est oui, effectivement, ça prend une période raisonnable pour pouvoir procéder à ces votes-là. Maintenant, le ministre lui parle d'un 24 heures obligatoire pour tout le monde pour voter. Encore une fois, en fonction des accréditations, la réalité peut être différente. Vous savez, quand vous avez 10 000 membres dans 100 établissements, ben OK, peut-être, puis d'avoir une plateforme numérique pour pouvoir procéder au vote, c'est une chose. Mais quand vous êtes prof dans un cégep ou vous êtes une cinquantaine, ben écoutez, vous êtes réunis en assemblée, vous n'allez pas mettre une boîte de vote dans un autre local puis l'ouvrir 24 heures, ça fait pas de sens.
Mais ça, en 2025, est-ce qu'on peut le faire avec des applications? Donc, les gens rentrent leur numéro de membre du syndicat avec un petit mot de passe, arrivent sur l'application, votent oui ou non. On est capable de faire ça en 2025, là?
Ben oui, bien sûr, ça se fait. Déjà, on a beaucoup de syndicats locaux, d'affiliés qui procèdent de cette façon-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a un coût rattaché à ça. Je le répète. Quand vous représentez dans un syndicat local 5 000, 6 000 membres, ben peut-être que ce coût-là, vous êtes capable d'absorber. Mais encore une fois, si vous en représentez 50 ou 60, comme c'est beaucoup le cas, là, je sais que dans l'imaginaire collectif, on pense que ce sont de grosses organisations, mais la réalité, c'est que c'était décentralisé, du moins la CSQ. Ce qui fait que, comme je donne l'exemple, hein, des profs de cégep, une cinquantaine, le coût rattaché à une plateforme numérique, son entretien, puis là, je vais pas rentrer dans tous les coûts rattachés au numérique, là, je pense qu'on a vu que...
C'est ce que j'allais vous dire, M. Gingras, prenez pas les mêmes fournisseurs que le gouvernement du Québec.
Absolument, mais sauf qu'il y a un coût quand même rattaché à ça, puis ouais. un coût d'entretien, un coût d'encadrement autour de ça.
Mais comptez tout ça, tous les déplacements de vos syndiqués qui iraient dans des assemblées générales, tout le travail que ça demande, la comptabilité à la main, parce que là, c'est des coupons que vous comptez. Ouais. Vous sauveriez énormément de temps, puis en 2025, le temps, c'est de l'argent, M. Gingras.
Oui, c'est ça, mais écoutez, là, je vous donne l'exemple. Dans un établissement, dans un cégep, là, le déplacement n'est pas grand, là. Ça se fait présentement, ça se fait sur l'heure du dîner, ça se fait après les heures de travail, et à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Moi, je vous dirais que l'enjeu de la démocratie syndicale nommée par le ministre, c'est pas ça qui est visé, et on est en accord avec cet aspect-là. Par contre, encore une fois, on amène une modulation, puis je pense que là-dessus, le ministre nous a écoutés en commission parlementaire. Maintenant, j'espère que ça va donner quelque chose, parce que après l'écoute, j'espère être entendu, puis que ça amène des changements, des amendements. Par contre, tout l'autre bout, là, Léon, puis là, vous me parlez de ce qui est acceptable, puis je tenais à le dire, parce que il faut pas penser que les syndicats, du moins à la CSQ, puis c'est vrai avec mes collègues, on est contre tout ça. Le bout où on s'oppose vigoureusement, c'est les aspects de cotisation facultative qui ne touchent pas, là, ce que dit le ministre, là, la défense des conventions collectives. Et ça, c'est une brèche énorme dans les contre-pouvoirs, puis dans la réalité du monde syndical.
Mais monsieur Gingras, je veux pas vous entendre critiquer Magali Picard, là, mais une représentante syndicale qui va à Dubaï pour une conférence sur l'environnement, vos syndiqués, excusez-moi l'expression, mais s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est leurs conditions de travail. Ce qu'ils veulent, c'est si jamais il y a un employeur qui agit d'une façon malhonnête avec un employé, mais que leur syndicat soit derrière eux. Des histoires de « Ah, je vais aller faire un tour à Dubaï », les syndiqués payent pas pour ça. Vous n'aurez jamais vos syndiqués de votre bord pour ça.
Ben, écoutez, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va voir notre monde pour avoir des mandats. Alors, moi, je vous le dis, là, chez nous, je vais chercher des mandats. Maintenant, c'est de la démocratie représentative. Dans la majorité des cas, on va chercher nos mandats avec des représentants qui, eux, représentent d'autres gens. C'est comme ça que ça se fait. Je veux dire que c'est comme ça la politique au Québec. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Maintenant, c'est possible qu'à la fin, j'ai un pourcentage de membres qui sont en désaccord, mais majoritairement, c'est la majorité, et on est en accord. Mais on donne souvent les mêmes exemples. Là, vous en avez donné un, mais ce qui est insidieux dans le projet de loi du ministre, et c'est ça, je pense, qu'il faut prendre le temps de bien expliquer, c'est que oui, il y a tous ces exemples-là là, qui ont été mentionnés dans l'espace public, mais en commission parlementaire, je vais donner un exemple qui, pour moi, est important et frappant. Alors, je vous le redonne à vous. La CSQ, qui représente majoritairement des femmes, plus de 80%, parce qu'on est beaucoup dans le secteur public, en éducation, en santé, donc des emplois du prendre soin, donc beaucoup de femmes. Et au tournant des années 90-2000, on a combattu le droit à l'équité salariale, donc à travail égal, salaire égal, oui, pour les femmes. On a combattu ça bien avant que le projet de loi soit adopté à l'Assemblée nationale. Alors, si la cotisation facultative s'était appliquée à ce moment-là, là, ça veut dire que je serais allé voir mon monde, puis j'aurais dit, êtes-vous d'accord qu'on milite pour l'équité salariale? Parce que c'est pas de la convention collective, puis c'est pas un droit que les salariés puis les membres avaient. Et là,
attendez un petit peu, oui, je comprends ce que vous dites, là, oui, mais si une femme fait le même travail qu'un homme puis a le même rendement, à l'époque, vous auriez pu militer pour que cette femme-là ait le même salaire que l'homme, parce qu'au, oui, même rendement, c'est pas le sexe qui va décider du salaire, ça a aucun sens. Là.
Absolument, mais on a dû militer pour ça, pour que la loi soit effective.
Oui, mais vous l'auriez fait pareil, jamais, j'ose... Ben voyons donc,
non.
C'est le gouvernement qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous battre contre le gouvernement, je comprends pas. C'était une logique à l'époque.
Permettez-moi de vous l'expliquer. Selon la loi qui est présentement là du ministre Boulay,
oui,
un syndicat, avec l'argent de ses membres, ne peut, hein, avec ce qui est là, dans sa cotisation standard, travailler pour la convention collective et les droits qui en ressortent. À ce moment-là, l'équité salariale, c'était pas une loi, c'était pas dans la convention collective. Donc, c'est ce qu'on appelle davantage une cause sociale, parce que je me battais pour mes membres, mais pour l'ensemble des femmes du Québec. Alors, je reviens avec mon exemple. Alors, je serais allé voir mes membres, puis probablement qu'il y en a le deux tiers qui auraient dit, ben oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. L'autre tiers, il n'allait pas nécessairement être en désaccord, mais peut-être qu'elle allait me dire, ben Eric, on n'y croit pas. Donc, on va pas donner notre argent facultatif. Et après, une fois qu'on l'a obtenu, parce que finalement, au tournant des années 2000, il y a eu la loi, il y a eu des gains qui ont été faits pour les profs, pour les secrétaires, pour les infirmières, en lien avec cette loi-là, ben là, tout le monde a reçu les dividendes de cette bataille-là. Et ça, c'est un exemple de ce qui est sur la table par le projet de loi, où on dit, ben voilà, le danger, c'est qu'il y a des gens qui bénéficient de quelque chose mené par les syndicats, une campagne syndicale, sans y contribuer. Et ça, c'est, on retourne à l'arrière. On retourne, justement, au balbutiement de la formule RAND. Et c'est ça qui est dénoncé. Puis, je vous donne un exemple, là, qui est important, puis qui n'est pas, là, dans ceux qui sont peut-être plus faciles. Écoutez, si moi je vous dis qu'il y a des causes que les membres ne veulent pas, par exemple, l'implication de la CSQ dans un parti politique, j'ai pas le droit, on a des décisions, et donc ça, pour moi, ça va de soi. Et ça, c'est inclus dans le projet de loi. Mais vous comprenez que le projet de loi, il va plus loin. Le ministre n'en parle pas beaucoup parce qu'il sait que ça, c'est mettre de côté les contre-pouvoirs.
Ouais, vous parlez beaucoup de contre-pouvoirs. Est-ce que la partie syndicale, puis là, j'ai inclus les syndicats dans son ensemble, perdent de la crédibilité dans le contre-pouvoir qu'on a justement de Magali Picard qui fait un show comme elle a fait en commission parlementaire?
Ben, moi, je pense que ma collègue, Mme Picard, là, a porté la frustration de ses membres. Vous savez, elle est en congrès. D'ailleurs, j'allais faire un tour au congrès de la FTQ en début de semaine. Il y avait de la tension, il y avait du mécontentement. Je pense que c'est ce message-là qu'elle a porté. On porte tout un message, et nous autres aussi, là, du côté de la CSQ, on a porté un message en commission parlementaire. Puis vous savez...
Mais de là à traiter le ministre d'innocent, me semble que ça fait perdre la crédibilité à votre mouvement. Et ça, tout parti syndical inclus, malgré le fait que c'est pas nécessairement votre organisation.
Puis, on veut pas que les représentants syndicaux en arrivent là, pas plus que si un politicien s'en prenait à Magali Picard en la traitant de conne ou qui a fait semblant d'être conne. T'sais, on veut pas, mais sa façon de se présenter va nuire à l'ensemble des syndiqués au Québec. Vous aurez pas la population de votre bord. On utilise un langage guerrier en disant qu'on va peut-être briser la paix sociale si le gouvernement fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. C'est assez particulier, M. Gingras.
Ben, écoutez, je dois vous dire là, que présentement, oui, il y a une tension au Québec. Oui, entre les organisations syndicales et le gouvernement, mais aussi avec d'autres groupes, je pense qu'on le voit. Mais vous savez, quand le premier ministre lui-même, là, dans son discours d'ouverture là, à l'Assemblée nationale, au retour là, avec la réouverture de la session parlementaire, a nommé les syndicats et les chefs syndicaux, puis il les a pas traités de bandits, là, mais il leur a dit qu'ils faisaient des choses qui étaient... qui n'avait pas de bon sens, puis vous pouvez regarder ou relire ce texte-là du premier ministre, c'est sûr qu'on veut mettre en opposition. Puis moi, comme chef syndical, je me suis senti visé, puis j'aurais pas dû. Alors, présentement, là, dans la population, là, il y a comme une tension où, avec ce que le premier ministre dit, ben c'est comme si aussi il mettait les syndicats, dans tout le même bateau. Et ça, je pense que, oui, vous avez raison sur une chose, il faut faire baisser un peu cette tension-là. Première chose qu'on va faire, vous l'avez nommé dans vos actualités tout à l'heure, il y aura un rassemblement à 13h30 à Montréal samedi. C'est un premier geste, puis celui, un rassemblement là, normal, comme on le fait habituellement. Vous m'avez dit si j'allais avoir l'esprit à la fête. Il sera peut-être pas festif, mais il va être correct pour vraiment aller dire au gouvernement que c'est pas une affaire de représentants syndicaux. C'est pas un enjeu d'Éric Gingras, président de la centrale. C'est vraiment que les membres puissent continuer à être entendus. Vous savez, si on n'avait pas eu les profs, le personnel de soutien, les professionnels en éducation collégiale pour dénoncer la pénurie, pour dénoncer le manque d'investissement encore cet été, pour dénoncer la pénurie et tous ces enjeux-là, les conditions de travail, ben, c'est certainement pas le gouvernement qui allait le faire. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il faut garder cette voie-là au Québec. Maintenant, je le répète, est-ce qu'on peut faire mieux comme organisation syndicale? Toujours. D'ailleurs, on est d'accord avec la transparence et la démocratie, du moins certains éléments du projet de loi.
Puis ce que j'aime de vous en tant que chef syndical, c'est que vous invitez plutôt le gouvernement ainsi que les différents groupes syndicaux à ouvrir le dialogue et que ce soit un dialogue social constructif. Mm-hmm. Et ça, vous allez nous avoir de notre bord si vraiment vous pensez ce que vous avez dit là. Autre point que je voulais aborder avec vous, Jean-François Roberge qui renforce son projet de loi sur la laïcité. Est-ce que ça touche vos membres? Puis si oui, est-ce que vous allez faire quelque chose contre ça?
Ouais, ben ça touche beaucoup de nos membres, notamment, bon, vous savez, tout le réseau scolaire a été touché dans un premier temps. Après ça, ça a été les profs. Dans un deuxième temps, le personnel de soutien avec la loi 14, qui était le projet de loi 14 qui a été adopté il y a quelques semaines de ça. Là, on en rajoute une couche, puis là, ça touche notre monde à la petite enfance, donc notamment nos collègues dans les centres de la petite enfance, dans les CPE, mais ça touche aussi nos collègues du collégial et de l'enseignement supérieur. Et là, ben, je vous dirais, est-ce que c'est davantage électoraliste qu'une nécessité? Et là, l'enjeu, je vous dirais, la CSQ, on est d'accord avec la laïcité, soyons clairs là-dessus. Mais comme on est allé le dire pour la loi, le projet de loi 94 qui touchait le personnel de soutien, notamment les éducatrices en service de garde dans nos écoles, c'est que la première chose qu'on a demandé, c'est parce qu'on a beau être d'accord avec les valeurs, après ça, Il faut être terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut des syndicats. Vous venez de me le dire, là. Il faut pas se battre contre des moulins puis des grands enjeux. Il faut être terrain. Alors, le terrain, ce qu'il nous dit, c'est, j'ai beau être d'accord avec les grandes orientations de laïcité, mais est-ce que ça veut dire que je vais avoir une pénurie de personnel? Parce que dans certains endroits, j'ai beaucoup de collègues qui vont être visés par les signes religieux, notamment à la petite enfance, notamment dans certains milieux, comme je l'ai nommé, dans le réseau scolaire. Et donc, ça, c'est sûr que c'est un enjeu qui est important. Puis quand on a demandé, puis qu'on demande au ministre, avez-vous des chiffres? Savez-vous combien vont être touchés? Savez-vous qui va être touché? Il n'est pas capable de répondre. Et ça, c'est majeur, parce qu'après ça, ben les gens veulent aussi des services.
On lui posera cette question-là tantôt, puisqu'on lui parle vers les entours de 8h45 à Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Immigration, sur son projet de loi sur le renforcement de la laïcité. Mais là, vos membres, là, ceux qui sont déjà actifs pour la CSQ, ils n'ont pas de clause grand-père?
Oui, ils ont une clause grand-père, mais...
Ah, ben tout est beau, on touche plus à rien, les autres vont être avertis.
Mais dans le petit, dans les petites lignes en bas, là,
les petits caractères qu'on lit jamais.
Les petits caractères, voilà. C'est écrit que si cette personne-là change d'emploi, c'est-à-dire a une promotion, donc change de poste, donc fait un mouvement, si on veut, latéral, ou passe d'un centre de service à l'autre. Vous savez, présentement, dans certains milieux, là, hein, traverser la rue, vous changez de centre de service, les CPE, il y en a un autre un peu plus loin, vous perdez ce droit-là. Donc, vous gardez la même job, le même travail que vous faites, mais vous changez d'employeur ou vous changez de titre d'emploi, et là, vous perdez cette clause grand-père-là. Ça, c'est un problème. Le deuxième, c'est que ce sont des milieux, dont la petite enfance notamment, j'ai parlé des réseaux scolaires, un peu moins du collégial, mais c'est vrai quand même dans ces milieux-là, c'est que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de roulement. Alors, t'as beau garder cette clause grand-père-là, souvent les gens veulent améliorer leur sort, parce qu'on le sait, là, on s'est battu pour ça en négociation, ce sont des salaires qui sont quand même assez bas, des heures qui sont souvent pas à la hauteur de ce qu'on aimerait. Donc, comme le roulement est très grand et qu'il y a une disponibilité de personnel, justement, qui ont des signes religieux, ben il y a un danger là. C'est ce qu'on est allé dire sur 94 en commission parlementaire. On risque de le dire aussi. Au cégep, à l'enseignement supérieur, il y a une notion d'expertise aussi qu'il faudra voir. Mais là, on va prendre le temps de regarder avec nos membres. Je l'ai dit, il faut toujours consulter nos membres avant de prendre une orientation.
Puis est-ce que vous excluez une possibilité de poursuivre le gouvernement à cet égard?
Ben, on l'a pas fait avec la loi 21. On l'a pas fait avec la loi 94. On est en attente, justement, de certaines décisions du tribunal. De notre côté, écoutez, on va voir notre monde. Puis notre monde, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont d'accord avec le projet de loi, mais pas à n'importe quelle condition. C'était vrai pour 21. C'est vrai aussi pour 94 qui a été accepté, là. J'espère pas trop perdre tout le monde avec les numéros de loi, mais bref, ce sont des lois sur la laïcité qui touchent les collègues du réseau scolaire notamment. Donc non, pour l'instant, c'est pas dans les plans.
Ça a été un plaisir, c'est le fun de jaser une fois de temps en temps, M. Gingras.
Ça fait plaisir, bonne journée, puis tout le monde va être là, bien sûr, à Montréal, samedi à 13h30.
Vous m'excuserez, moi j'ai d'autres choses à faire. Je pense que j'ai une petite bière à aller prendre quelque part.
Hey, t'es dans le coin, t'es dans ton coin d'hockey à Boisbriand.
J'étais à Boisbriand.
Va à Montréal. Moi, désolé, M. Gingras, je suis à l'aréna de Val-Bélair samedi.
Salut, M. Gingras.
Bon week-end à vous.
Salut,
bon.